Vous écoutez Radio France Internationale, il est midi et demi en temps universel, 13h30 ici à Paris. Et c'est l'heure d'Afrique Midi. Bonjour Arthur Ponchelet.
Bonjour Anne Cantner et bonjour à vous qui nous écoutez.
À la une, Emmanuel Macron en visite d'État au Maroc.
Le président français doit atterrir à Rabat dans quelques heures. Objectif, tourner la page de 3 années de brouille entre la France et le Royaume. Nous serons en direct de la capitale marocaine avec notre envoyé spécial dès le début de ce journal. Une 40aine de morts dans une attaque de Boko Haram au Tchad. Le groupe djihadiste a visé une base militaire la nuit dernière. Le président Mahamat Idriss Déby annonce s'être rendu sur place tôt ce matin.
Cette dernière attaque de Boko Haram, on en reparle après le journal. Vincent Fouché, chercheur au CNRS et spécialiste de Boko Haram, sera l'invité d'Afrique Midi.
La guerre au Soudan et ses défections qui s'enchaînent autour du général Emeti. 5 de ses plus hauts conseillers ont rejoint l'armée soudanaise. On fera le point avec Ouda Ibrahim. Au sommaire également, on sera en RDC où l'idée d'une nouvelle constitution continue d'agiter la classe politique. Cette fois, c'est le FCC de Joseph Kabila qui marque son opposition au projet. Et puis du football et cette question qui, pour succéder à Lionel Messi, la traditionnelle cérémonie du Ballon d'Or se tient ce soir à Paris avec un seul joueur du continent en lice pour la prestigieuse récompense. 3 jours pour sceller la réconciliation entre la France et le Maroc. Emmanuel Macron entame aujourd'hui une visite d'État dans le Royaume. Objectif, tourner la page après une brouille de 3 ans entre les deux pays. Le président français doit être accueilli par le roi Mohamed VI en personne à l'aéroport de Rabat dans quelques heures. Et c'est justement dans la capitale marocaine qu'on vous retrouve en direct. Valérie Gaz, bonjour.
Bonjour Arthur.
Chef du service politique de RFI, c'est bien de réconciliation qu'il s'agit ?
Oui, exactement. Et c'est la lettre d'Emmanuel Macron envoyée au roi Mohamed VI le 30 juillet dernier, dans laquelle il écrit que l'avenir du Sahara occidental s'inscrit dans le cadre de la souveraineté marocaine qui a débloqué la situation. Emmanuel Macron a fait le pas supplémentaire attendu sur ce sujet prioritaire pour le Maroc, qui a fini d'aplanir les différends accumulés ces dernières années. Différends comme l'affaire Pegasus d'espionnage et les soupçons d'implication marocaine dans la mise sur écoute du téléphone d'Emmanuel Macron, les efforts aussi de rapprochement de Paris avec Alger qui avait déplu à Rabat et puis la crise provoquée par la décision de la France de réduire de moitié ses visas pour obtenir du Maroc plus de laissez-passer consulaires, ces documents nécessaires pour renvoyer les Marocains sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. La relation s'était dégradée à tel point que le Maroc avait même refusé l'aide de la France après le terrible tremblement de terre de Marrakech en 2023. Aujourd'hui, changement de ton, c'est le roi donc en personne qui va accueillir à l'aéroport Emmanuel Macron et son épouse qui arrivent avec une délégation XXL, plus d'une centaine de personnes, ministres, chefs d'entreprise, artistes, sportifs, à la hauteur du soulagement et des attentes autour de cette visite d'État.
Valérie Gasse en direct de Rabat pour RFI. Alors cette visite n'est pas que politique, ses enjeux sont aussi économiques. Emmanuel Macron embarque avec lui une 40aine de grands patrons, puisque le Maroc est la première destination des investissements français sur le continent. Mathias Reynal, d'importants contrats pourraient être signés lors de cette visite.
Alstom, Airbus, Engie, des champions de l'industrie française font partie de la délégation, des entreprises qui espèrent profiter du réchauffement des relations diplomatiques et de cette période de grands investissements qui s'ouvre pour le Maroc. Le Royaume doit en effet accueillir de grands événements internationaux dans un futur proche, la Cannes 2025, la Coupe du Monde 2030. La compagnie nationale, la Royal Air Maroc, prévoit ainsi d'acheter des avions pour agrandir sa flotte et pourrait se tourner vers Airbus, qui souhaite aussi vendre des hélicoptères de transport tactique Caracal. Dans le domaine militaire, justement, la visite du président français au Maroc a également relancé les ambitions de Naval Group. Le constructeur souhaiterait conclure un accord pour la vente de 2 sous-marins et la construction d'une sous-marinade. Dans le secteur ferroviaire, Alstom est en lice avec d'autres multinationales pour décrocher le marché portant sur la fourniture de 168 trains, un contrat à 1,5 milliard d'euros. Il faut noter que le froid entre Paris et Rabat n'avait pas mis fin aux relations économiques. Loin de là, les échanges commerciaux entre la France et le Maroc ont atteint le record de 14 milliards d'euros l'an passé. Mathias Reynal, Casablanca, RFI.
Et pour faire le point sur les enjeux de la visite d'Emmanuel Macron au Maroc, rendez-vous sur notre site rfi.fr. attaque d'envergure de Boko Haram au Tchad. Les djihadistes ont attaqué une base avancée de l'armée tchadienne dans la région du lac Tchad la nuit dernière. Au moins une quarantaine de soldats tchadiens ont été tués, selon un communiqué de la présidence, qui annonce aussi un déplacement sur place dès ce matin de Mahamat Idriss Déby. Edras Dikoumana.
L'attaque djihadiste a débuté aux environs de 22h locales et a visé la base avancée de l'armée tchadienne située sur l'île de Barkaram, tout près de la frontière du Nigeria. Les plus de 200 militaires qui constituaient la garnison de cette base n'ont pas réussi à contenir les assaillants, très nombreux selon des sources locales. Le bilan est très lourd, au moins 40 soldats tués selon la présidence tchadienne, alors que des sources locales parlent d'une soixantaine de soldats qui ont perdu la vie et des dizaines de blessés. Les assaillants ont occupé la base jusqu'à l'aube et sont repartis en emportant avec eux un lot important d'armes et de munitions après avoir incendié le camp militaire selon toujours les mêmes sources. Signe de la gravité de cette attaque, le président Mahamat Idriss Déby s'est rendu sur place tôt ce matin et a tout de suite lancé l'opération baptisée Haskanit de traque des assaillants, précise le communiqué de la présidence. Elle se vient quelques semaines à peine après la fin de l'opération Lexaniti, rendre sain le lac en français de la force multinationale mixte dans la région, une opération d'envergure qui n'a pas eu apparemment l'effet escompté, puisque les djihadistes de Boko Haram ont continué d'écumer cette zone marécageuse qu'ils connaissent comme leur poche en attaquant et en pillant agriculteurs et pêcheurs de la région, selon des témoignages sur place.
Cette nouvelle attaque de Boko Haram au Tchad, on y revient juste après ce journal. Le chercheur au CNRS et spécialiste de Boko Haram, Vincent Fouché, sera notre invité. En bref, au Cameroun, une élue municipale retrouvée morte ce matin tôt à Bamenda. Frida Djoko avait été enlevée samedi en fin de journée par des hommes armés dans la capitale de la région anglophone du Nord-Ouest. Les autorités dénoncent les dérives barbares des combattants séparatistes qu'ils qualifient de terroristes armés. Et par ailleurs, toujours au Cameroun, selon le ministère de la Communication, le directeur de publication du point Bihebdo, Thierry Patrick Ondoa, est libre depuis vendredi. La ministre de l'Habitat n'a pas encore retiré sa plainte pour diffamation et propagation de fausses nouvelles. Le journaliste doit comparaître à nouveau aujourd'hui devant la police judiciaire. Au Mali, c'est demain que la cour d'appel de Bamako doit se prononcer sur la remise en liberté des 11 opposants, membres de la plateforme de la déclaration du 31 mars. Voilà 4 mois que ces 11 cadres de partis politiques maliens ont été arrêtés. Ils sont notamment poursuivis pour opposition à l'exercice de l'autorité légitime et complot. Le mois dernier, la justice avait ordonné leur libération sous contrôle judiciaire. Ils seront donc fixés sur leur sort demain. En attendant, le parti Yelema et le mouvement Reconstruire ont appelé aujourd'hui les Maliens à observer 3 minutes de pause en fin de matinée pour exiger la libération de tous les prisonniers d'opinion. Sidi Yansané.
4 mois après l'arrestation de leurs 11 collègues, les partis et organisations signataires de la déclaration du 31 mars ne se contentent plus d'exiger la seule libération de leurs camarades. Ils veulent désormais dénoncer l'incarcération de plus en plus généralisée des voix critiques de la transition. Alors que les activités politiques sont de nouveau autorisées depuis le mois de juillet, la plateforme d'opposition ne comprend pas le maintien de leurs cadres en détention, alors que la justice avait déjà décidé de leur libération sous contrôle judiciaire, une décision à laquelle le procureur général avait fait appel. Demain, la cour d'appel de Bamako statuera sur leur sort, mais les opposants veulent désormais mettre la lumière sur ce qu'ils considèrent comme des prisonniers d'opinion, comme le chroniqueur radio Rasbat, l'influenceuse Rose Vicher ou le militant associatif Clément Dembélé ou encore l'économiste Étienne Fakaba Sissoko.
Au Soudan, après la défection la semaine dernière d'un grand chef militaire des forces de soutien rapide, 5 autres responsables politiques, cette fois-ci, ont annoncé samedi à Port-Soudan leur défection des FSR. Il s'agit des conseillers du général Emeti, ils ont rejoint l'armée soudanaise. La défection d'Abou Akla Kikel, ce chef militaire des FSR, a conduit à de vastes opérations d'exaction contre des villes et des villages à l'est de l'état d'Al Jazeera. Ouda Ibrahim, les ex-responsables des FSR ont d'ailleurs fait quelques révélations sur le fonctionnement des paramilitaires et les ambitions de leur chef.
Les 5 anciens hauts conseillers du chef des forces de soutien rapide ont accusé leur ancien chef de vouloir accaparer le pouvoir et de chercher à contrôler les côtes soudanaises situées sur la mer Rouge avec l'aide de pays tiers qu'ils n'ont pas nommés. Selon Abdelkader Ibrahim, ex-conseiller du général Hmeti pour le Soudan de l'Est, le chef de FSR avait proposé à l'armée de réaliser certains projets dont le coût s'élevait à 30 millions millions de dollars. Il s'agissait de construire des aéroports, des ponts, ainsi que 6 camps d'entraînement pour former 30 000 combattants dans l'état stratégique de la mer Rouge au Soudan. Mais l'armée a refusé d'accéder à ces demandes.
Ces anciens conseillers ont donc expliqué que l'échec de Hemeti à concrétiser ses ambitions pour prendre le pouvoir est la raison principale de la guerre actuelle.
Effectivement, et non pas les divisions sur l'accord cadre pour la paix au Soudan signé en 2020, comme cela a été évoqué, selon eux bien sûr. L'ex-directeur de communication de Hemeti, Mohamed Othman Omar, a également révélé que la communication de FSR est dirigée depuis l'étranger par une société israélienne sans plus de précision. Selon ses responsables, 3 autres conseillers, dont les noms n'ont pas été révélés pour des raisons sécuritaires, se joindront à eux rapidement.
Ouda Ibrahim en direct dans Afrique Midi. Coup d'envoi hier de la campagne pour les élections législatives au Sénégal. On vote le 17 novembre prochain pour élire les 165 députés de l'Assemblée nationale. Hier à Dakar, pouvoir et opposition ont sillonné les rues pour convaincre. Notre correspondant Biraïm Touré a suivi le PASTEF et l'intercoalition qui regroupe Macky Sall, Amadou Ba et Khalifa Sall. Reportage.
Des décibels dans les oreilles, des militants aux couleurs de leur formation politique ou t-shirts avec effigie de leur candidat, dans la commune de Biscuiterie, proche banlieue de Dakar, les leaders de l'intercoalition qui regroupe l'ancien président Macky Sall, Amadou Ba, candidat battu à la dernière présidentielle, Khalifa Sall et d'autres figures sont venus soutenir leur tête de liste du département, Barthélémy Diaz, maire de Dakar, Djibril Loire, membre de la coalition.
Le président Macky Sall. J'exprime ces profonds remerciements pour cette acte qui témoigne. Votre hauteur est pleine conscience de l'intérêt supérieur de la nation.
À quelques kilomètres de là, PASTEF Dakar déroule sa caravane qui a pris départ au siège du parti de Ousmane Sonko. À Basfal, le porte-étendard du parti dans la capitale lance son message du haut de son véhicule devant ses militants.
Nous sommes toujours des combattants. C'est le combat pour le développement de ce pays. On a besoin d'aller à l'Assemblée nationale avec une majorité écrasante.
Outre les meetings et rencontres, les différents candidats vont être soumis au temps d'antenne à la télévision nationale sénégalaise. 3 minutes pour chacun par jour pour convaincre les électeurs dans des clips de campagne. Biraïm Touré, Dakar, RFI.
Rendez-vous donc le 17 novembre prochain pour les élections législatives au Sénégal. Actualité politique aussi en RDC, où l'idée d'une nouvelle constitution continue d'agiter l'opposition. La semaine dernière, Félix Tshisekedi a réitéré cette proposition lors d'un déplacement à Kisangani. Après Martin Fayoulou, vendredi dernier, le FCC de Joseph Kabila annonce lui aussi son opposition au projet. Dans un communiqué diffusé dimanche soir, la coalition de l'ancien président dénonce une forfaiture. Florence Maurice.
Le FCC oppose un non catégorique et cinglant au projet de révision de la Constitution et lance un appel à mobiliser les Congolais pour le faire échouer. C'est ce qu'on peut lire dans ce communiqué. Le peuple va se lever pour défendre ses droits, sa liberté et sa souveraineté, menace le FCC. Le camp de Joseph Kabila rejette les arguments avancés par le président Tshisekedi pour justifier une réforme. La Constitution de 2006 n'a pas été écrite à l'étranger, par des étrangers, comme l'a affirmé le chef de l'État, peut-on lire dans ce communiqué, mais par des compatriotes représentant la diversité de la nation congolaise, fin de citation. Le FCC accuse le président de se livrer à une machination politique pour, je cite encore, détourner l'attention de son incapacité à assurer la sécurité et estime qu'une réforme constituerait un danger pour la paix, l'unité et la stabilité de la RDC. En 2015, le camp de Joseph Kabila, alors au pouvoir, avait tenté de modifier cette même constitution, mais avait dû y renoncer sous la pression de l'église, de la rue et de l'opposition.
La RDC où des affrontements ont eu lieu ce dimanche entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise dans l'Est. Deuxième jour de combat consécutif signalé dans le territoire de Walikale. Il est 12h44 en temps universel.
Afrique Midi sur RFI.
Dans la seconde partie d'Afrique Midi, reportage sur l'île aux singes en Centrafrique.
Ce territoire est victime de la montée des eaux, des inondations plus importantes que d'habitude. Vous l'entendrez, les habitants plient bagages. On parlera aussi football avec cette question. Qui pour succéder à Lionel Messi? La cérémonie du Ballon d'Or se tient ce soir à Paris. 30 prétendants au titre, mais un seul joueur africain. L'attaquant nigérian de l'Atalanta Bergame, Ademola Lookman. Et puis on terminera cette édition en musique. musique. On va danser sur le dernier album du roi de l'afrobeat, Sean Coty. Jour de rentrée scolaire au Niger, la rentrée des classes avait été décalée en raison des intempéries qui s'étaient abattues dans le pays, des fortes pluies et des inondations qui ont touché près de 7 millions de personnes en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale et qui continuent d'inquiéter les populations. En Centrafrique, l'île aux singes est à nouveau menacée par la montée des eaux. Près de 2000 personnes vivent sur ce territoire situé entre Bangui et la ville congolaise de Zongo. Des inondations fréquentes mais hors normes cette année, au point que certains habitants commencent déjà à plier bagages. Reportage de Rolf-Steph Domiale.
Ce matin, une pirogue bien chargée s'apprête à quitter l'île aux singes pour la capitale Bangui, juste en face. Abel cherche à mettre sa famille à l'abri du danger. Ce cultivateur de 65 ans tourne la tête et pointe du doigt la maison de son voisin.
L'eau n'a pas cessé de monter. Quand je regarde la maison de mon voisin inondée, je n'arrive pas à dormir. J'avais tout perdu lors des inondations 2019, je ne veux plus revivre ce drame. C'est pourquoi j'ai décidé d'évacuer ma famille.
Ces dernières semaines, les jeunes de ce secteur essaient de renforcer les berges en plaçant des sacs de sable le long de la rivière Bangui. Fridolin repose ses manches avant de passer à l'action.
Que ce soit du côté congolais ou centrafricain, l'eau s'approche dangereusement de l'île. Plusieurs maisons sont déjà inondées. On ne sait plus où aller. C'est pourquoi nous renforçons la berge pour nous protéger.
Dans ce contexte où l'inondation devient inévitable, le gouvernement invite les riverains à quitter les zones marécageuses. Maxime Balalou est son porte-parole.
Nous sommes dans le cadre des bouleversements climatiques. Là, on veut les reloger maintenant. Ils n'ont pas d'alternative. Ils doivent quitter. Voilà, Palungo, il faut qu'ils quittent. Parce que s'ils insistent, ils vont vivre la même chose.
Mais en attendant sur l'île aux singes, les risques sanitaires sont importants. Les autorités locales craignent la propagation des maladies comme le paludisme, la diarrhée et le choléra. Rolf-Steph Domiale, Bangui, RFI.
En football, qui sera couronné meilleur joueur et meilleure joueuse de la saison? Réponse ce soir lors de la traditionnelle cérémonie du Ballon d'Or au Théâtre du Châtelet à Paris. Chez les hommes, qui pour succéder à Lionel Messi, deux joueurs du Real Madrid, le Brésilien Vinicius et l'Anglais Jude Bellingham figurent parmi les favoris. Dans la liste des 30 nommés, un seul Africain, l'attaquant nigérian de l'Atalanta Bergame, Ademola Lookman. C'est très peu et ça n'est pas très compréhensible pour Yoro Mangara, le consultant de Radio Foot International, pour qui il manque des noms importants.
Je crois que les gens ils ne jugent pas ce que Mo Salah fait avec Liverpool, par exemple. Ne pas mettre Mo Salah dans ses 30, c'est une énormité. Regardez tout ce qui était là avec lui, que ce soit Mané, Firmino, Coutinho, ils sont tous partis. Lui, il est là, il est encore performant, il marque des buts. Malheureusement, ne pas le voir sur cette liste des 30, ne pas voir Serhou Guirassy et voir Dovbyk aussi, je crois que c'est pas normal parce que Dovbyk, meilleur buteur avec Girona de la Liga espagnole, mais c'est 24 buts en plus de 30 matchs, alors que Serhou Guirassy, c'est 28 buts en 28 matchs, donc il doit être dans cette liste.
Yoro Mangara, consultant de Radio Foot International. Il est midi 48 en temps universel. Voilà pour l'essentiel de l'information africaine de ce lundi 28 octobre. Et tout de suite, on fait le point avec vous, Anne Cantner, sur les principaux titres de l'actualité internationale.
Avec à la une la Géorgie, où l'opposition et la jeunesse pro-européenne manifestent cet après-midi et dénoncent toujours des élections truquées, ainsi que la victoire annoncée du parti au pouvoir, parti pro-russe. Le Premier ministre assurait cependant ce matin que sa priorité en matière de politique internationale était d'intégrer l'Union européenne. Une frappe israélienne sur la ville de Tyr au Liban, elle a eu lieu très peu de temps après un appel à évacuer qui avait été lancé par l'armée israélienne. Le procès de Gérard Depardieu a bien commencé en France, pas de report, contrairement à ce que réclamaient ses avocats. L'acteur mythique du cinéma français est jugé après des plaintes pour agression sexuelle commises sur un tournage il y a 3 ans. On en parlait il y a quelques minutes, les djihadistes de Boko Haram ont lancé la nuit dernière une attaque contre une garnison de l'armée tchadienne. Dans un communiqué, la présidence évoque une quarantaine de morts et votre invité ce midi, Arthur, est chercheur au CNRS, spécialiste de Boko Haram.
Bonjour Vincent Fouché.
Bonjour.
Comment expliquer cette résurgence de Boko Haram dans la zone ?
Alors le mouvement est divisé en deux depuis 2016 et vous a, en 2021, le leader historique du mouvement initial, hein, Aboubakar Shekau, avait été tué et la faction qu'il dirigeait, qu'on appelle Jamaat al-Sunna Lidawati wal Jihad, donc JAS si on veut, a été en perte de vitesse en 2021-2022, avait subi de rudes coups face à l'autre faction qui est liée à l'État islamique. Cette faction liée à Shekau, à partir de 2023, a connu une sorte de réveil militaire, et notamment à partir de la partie nord du lac, la partie du lac Tchad, à la frontière entre le Niger et le Tchad, sous la direction de Bakoura, qui est donc le successeur de Shekau. Et donc cette attaque, elle a eu lieu dans la zone en fait qui est sous contrôle de Bakoura. Et donc c'est probablement de ce côté-là qu'on doit voir les responsabilités de cette grosse attaque.
Et que cherche justement Boko Haram en lançant ce genre d'attaque ?
Alors bon, on est vraiment, l'attaque a eu lieu hier, hein, on est encore très flou, y compris sur le bilan, on parle de 40 morts, mais il y a peut-être plus que ça. On n'est pas certain que ce soit Bakoura, il n'est pas impossible que ce soit un sous-chef dans sa faction qui a envie de se distinguer, hein. On sait qu'il y a des tensions au sein du groupe et on sait que pour se lancer un peu en indépendance, si on veut, dans le djihad, il faut des moyens et que les grosses attaques sur des bases militaires, c'est en fait un moment essentiel de l'accumulation du capital guerrier. C'est à ce moment-là qu'on récupère de l'armement et qu'on peut essayer de créer une sous-faction. Donc il ne faut pas exclure, hein, une possibilité au sein même du groupe Bakoura, d'une division, et que cette attaque fasse partie de ça. Mais ça peut être aussi, pour Bakoura, une manière de montrer qu'il est quand même dans le jeu. Il a essayé en 2023-2024 de reprendre la main face au groupe dominant, hein, le groupe qui a poussé à la mort Aboubakar Shekau, qui est donc le ISWAP, hein, l'Islamic State West Africa Province. Qui est lié à l'État islamique, et donc il essaye peut-être de faire un gros coup et de montrer, bah voilà, on est là, je suis un leader important, il faut compter avec moi.
Et est-ce qu'on peut dire justement que ces derniers mois, ces dernières années, la stratégie de Boko Haram a évolué ?
Alors, donc oui, on a vraiment des ruptures, hein. Après la mort de Shekau en 2021, ce groupe-là a été un peu discret. Il avait commencé fin 2022, surtout sur 2023, une sorte de contre-attaque dans le lac contre la faction liée à l'État islamique. Et puis, du côté de Tchad, ce groupe-là avait toujours été très actif, mais en fait beaucoup plus sur des attaques de prédation contre des civils. On allait capturer des civils pour des rançons, ou capturer des femmes pour des mariages forcés, on allait piller des villages. Et au fond, ils ont fait assez peu d'attaques, de grosses attaques contre les militaires ces derniers temps du côté du Tchad.
Est-ce que la coopération régionale du Tchad, notamment avec ses voisins, le Nigeria et le Niger, est-ce que cette coopération, elle a montré ses limites aujourd'hui ?
Oui, ça, je crois que c'est assez clair, et au fond, c'est assez clair depuis un certain temps. Le djihad, le djihad nigérian, s'est vraiment centré sur le lac Tchad ces dernières années, et la force, ce qu'on appelle la force multinationale mixte, hein, qui est basée à N'Djamena, au Tchad, dont le quartier général est là, et qui est censée coordonner les efforts autour du lac. Au fond, c'est précisément dans le lac, qui est la zone que cette force doit contrôler, que le djihadisme est le plus actif et le plus destructeur. Donc oui, on a des vraies limites. Alors on a eu une grosse opération qui s'est terminée fin août, hein, et au fond, voilà, depuis fin août, il se passe un peu moins de choses du côté militaire, et donc c'est aussi un moment pour les deux factions djihadistes de relancer les affaires.
On en parlait tout à l'heure, le président Déby s'est rendu sur place dès ce matin. Quelle signification on peut donner à ce déplacement du chef de l'État sur le front ?
Le régime tchadien est un régime qui doit beaucoup à l'armée, hein, qui est vraiment lié au contrôle et à la loyauté des forces armées. Et dans un épisode tout à fait similaire, puisque c'était d'ailleurs le même groupe, hein, le groupe JAS, qui en 2020 avait lancé une grosse attaque contre l'armée tchadienne à Bohoma, qui avait fait plus d'une centaine de morts dans l'armée tchadienne, le président Déby père s'était rendu immédiatement à Bohoma et avait lancé une contre-offensive, s'était montré sur le terrain. Et donc, comme le Déby, le fils, doit aussi beaucoup de légitimité à cette espèce de posture militaire, il est un peu obligé de s'occuper de son armée quand elle est en crise, quoi. Donc on est dans une forme de répétition là.
Une dernière question avant de vous quitter, Vincent Fouché. Est-ce qu'on peut dire que Boko Haram s'appuie sur une frange de la population du lac Tchad ?
Alors, oui, disons qu'il y a, des populations, d'abord le centre du lac, hein, où il y a des populations civiles qui sont sous le contrôle du mouvement et qui vivent, ou des mouvements, puisqu'ils sont tous les deux présents sur le lac Tchad, hein, et qui au fond payent des impôts, participent à l'économie, au bon gré malgré, participent à l'économie du mouvement. Et puis par ailleurs, ce qui fait la force de ces deux factions djihadistes, c'est qu'elles contrôlent des ressources agricoles. Hein. Le lac Tchad, c'est une zone très riche, très poissonneuse, avec des pâturages de qualité, avec une terre extrêmement fertile, hein, très très riche en limon. Et donc beaucoup de civils sont un peu obligés de chercher des deals, au fond, avec les deux factions. Alors pendant longtemps, la faction de Chekao n'était pas très favorable à ces deals-là. Elle est un peu en train d'évoluer et de passer des deals, notamment côté Niger avec les populations civiles. Mais voilà, il y a effectivement des formes de lien avec la population, mais encore une fois, bon gré malgré, hein, il y a évidemment une part de coercition et de menace dans tout ça.
Et on continuera évidemment à suivre tout cela sur l'antenne de RFI. Merci Vincent Fouché d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes chercheur au CNRS et spécialiste de Boko Haram. Midi 55 ici à Paris, 13h55, midi 55 en temps universel, 13h55 à Paris, on se quitte en musique avec le nouvel album de Sean Kuti, l'un des deux fils de Fela Kuti, le créateur de la musique afrobeat, plus lourde encore et la tête sans couronne. Voilà comment on pourrait traduire le titre de cet album qui se veut politiquement engagé. Olivier Roger.
Des cuivres rugissants, des rythmiques syncopées, un groove unique, Sean Kuti est bien le digne fils de Fela, prince de l'afrobeat inventé par son père. Pour son 7e album studio, Sean Kuti conserve les fondamentaux de cette musique qu'il modernise au contact des influences urbaines, une façon d'assumer sa filiation sans la subir. On notera la participation de Damian Marley, le fils de Bob Marley. Cet album est avant tout un manifeste politique. Le titre, plus lourde encore et la tête sans couronne, est une déformation d'un vers du dramaturge anglais William Shakespeare. Inquiète est la tête qui porte la couronne, Sean Kuti.
Le titre de l'album est une façon de parler au nom du peuple pour répondre à cette maxime élitiste qui veut que lourde est la tête qui porte la couronne. Je voulais affirmer une conscience de classe. Les têtes couronnées, ce sont les élites et les entreprises.
Tout au long des 6 pistes, certaines durant jusqu'à 8 minutes, Sean Kuti dénonce la violence sociale, la surconsommation, l'indifférence des élites et rend hommage aux grandes figures émancipatrices, de Malcolm X à Patrice Lumumba.
Kuti sur RFI. Et c'est ainsi que s'achève cette édition d'Afrique Midi. Elle a été réalisée par Benoît Raymond, Laurent Chaffard à la rédaction en chef, assisté de Jugurtha Hammer. Afrique Midi revient demain. Mais tout de suite, c'est la suite d'RFI Midi avec Anne Cantner.
Merci Arthur Ponchelet. Vous restez avec nous. On se retrouve dans un peu plus d'une minute maintenant pour le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Et on va parler évidemment de la dernière ligne droite dans la campagne aux États-Unis. Et vous pouvez aussi écouter une demi-heure d'informations en full day en Afrique de l'Ouest.
Tout à l'heure sur RFI, de vive voix avec Nathalie Amar.
Et si Balzac, Hugo, Flaubert et Verlaine avaient été ensemble élèves dans la même classe? Zola y défend les droits des écoliers, Rimbaud est un élève à surveiller, À l'école des lettres est un album drôle et érudit, c'est aussi un hommage à l'école de la République. Son auteur, Popézi, sera avec nous.
Écoutez de vive voix avec Nathalie Amar, du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.
Priorité santé.
Caroline Paré reçoit des spécialistes pour faire le point sur l'actualité médicale dans le monde.
Demain,
l'insuffisance rénale. Quand se faire dépister, comment la prévenir et la prendre en charge.
Mercredi.
La cataracte et le glaucome sont des maladies chroniques des yeux. Un patient sur deux pourrait être soigné s'il était pris en charge plus tôt. Comment permettre un diagnostic précoce?
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI. Ce mercredi sur RFI.
This is an awesome power of George Foreman against the finely boxing skills of Muhammad Ali.
Les 50 ans du combat du siècle.
Tremendous left hook. Going to stop Ali. Here we go, Ali quickly across the round.
Le 30 octobre 1974, se déroulait le combat du siècle, Mohamed Ali, George Foreman à Kinshasa. 50 ans après, nous vous proposons une journée spéciale sur RFI.